France Inter.
Bonjour à tous. À la une de ce 13h, un sommet à distance en ce moment à l'initiative de Londres pour garantir la sécurité de l'Ukraine dans l'hypothèse d'un cessez-le-feu. Tôt ou tard, Vladimir Poutine devra venir à la table des négociations, dit le Premier ministre britannique. Nous serons à Londres. Nous serons également à Belgrade, sous tension, alors que des milliers de Serbes ont commencé à converger ce matin pour une manifestation qui s'annonce massive après des mois de contestation contre la corruption. Nous serons en Syrie, 14 ans, jour pour jour, après le début de la révolution sanglante qui a finalement mené à la chute de Bachar el-Assad en décembre dernier. C'est l'événement sportif de ce samedi, un France-Écosse. Dernier match du tournoi des Six Nations, ce sera ce soir au Stade de France. Qu'est-ce que la France doit craindre de l'Écosse? Eh bien, nous poserons la question en direct à notre invité, l'ancien sélectionneur Guy Noves. Il y aura les bonnes ondes de Sandrine Houdin à Laval. À propos d'une troupe de théâtre exceptionnelle, les comédiens sont tous porteurs de handicap, mais jamais ils n'en font état.
Quand on a le théâtre, c'est la récréation. On se marre tellement. On ne parle jamais de handicap, jamais. On est là pour jouer.
Et ce sera après le journal. Secret d'info, notre magazine d'investigation. Benoît Colomba, sur quel thème?
Eh bien, nous allons nous intéresser à la nouvelle casquette de Tony Parker, l'ancienne star du basket aux États-Unis en équipe de France. Il se présente aujourd'hui comme un homme d'affaires à succès dans de nombreux domaines. Nous sommes allés voir ce qu'il en est vraiment.
Eh bien, à tout à l'heure, Benoît. Et puis le temps de ce samedi, Céline Dacosta. La neige va continuer de tomber cet après-midi sur le centre-est?
Oui, surtout entre l'Auvergne et le Limousin. Mais aussi en allant vers la Franche-Comté et la région Rhône-Alpes sous forme de pluie et de neige mêlée.
Et vos prévisions complètes dans une vingtaine de minutes.
France Inter.
Ils sont donc environ 25 dirigeants européens, de l'OTAN aussi, du Canada, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et de l'Ukraine. Un sommet donc à distance qui a débuté ce matin en visioconférence baptisé Coalition des volontaires, sommet impulsé à Londres par le Premier ministre Keir Starmer, qui veut une paix durable et juste en Ukraine, au moment où justement Vladimir Poutine est accusé de vouloir gagner du temps avant un éventuel cessez-le-feu. Bonjour Laura Kalmus.
Bonjour Eric.
Vous êtes en duplex de Londres, il s'agit donc aujourd'hui de trouver une logistique de sécurité très concrète pour l'Ukraine dans l'hypothèse d'un cessez-le-feu.
Exactement, Keir Starmer veut du concret, des engagements pour l'Ukraine. Il l'affirme, Vladimir Poutine devra tôt ou tard venir à la table des négociations. S'il prend la paix au sérieux, dit-il, il doit accepter la proposition de cessez-le-feu de Donald Trump. Et pour le Premier ministre britannique, il y a deux constats. Le président Zelensky, présent à cette réunion virtuelle, montre une fois de plus que l'Ukraine veut la paix. Vladimir Poutine, lui, cherche à gagner du temps. Alors le monde entier a les yeux rivés sur Vladimir Poutine, a déclaré le Premier ministre britannique devant son écran, s'adressant donc aux représentants des 25 pays de la coalition des volontaires. Il y a donc trois priorités: renforcer l'Ukraine, être prêt à défendre un accord éventuel, et puis enfin maintenir la pression sur la Russie. Deux scénarios semblent se dessiner. Si la Russie accepte de négocier, la coalition pourrait surveiller le respect du cessez-le-feu. Sinon, il faudra renforcer la pression économique sur Moscou.
Moscou d'ailleurs qui annonce ce matin avoir repris aux Ukrainiens deux villages dans la région de Koursk. Vladimir Poutine appelle d'ailleurs les soldats ukrainiens qui combattent dans la zone à déposer les armes s'ils veulent rester en vie. Mais Volodymyr Zelensky dément ce matin tout encerclement des troupes ukrainiennes dans cette région russe de Koursk. Quel rôle doit jouer la France dans cette recomposition internationale? Eh bien, nous poserons la question demain au Premier ministre François Bayrou, qui sera l'invité exceptionnel de France Inter. Demain donc, entre midi et 13h, il sera l'invité de Karine Bécard dans l'émission Questions politiques. Pour ne plus jamais taire les violences sexistes et sexuelles, un forum se tient en ce moment à Bayonne pour donner la parole aux victimes. On entendra ce soir deux victimes de Betaram, cet établissement catholique privé, réputé pour sa discipline de fer, là où les accusations de pédophilie se succèdent depuis quelques semaines après 50 ans de silence. Thomas Séchier.
Ce moment, Olivier Bunel l'attend depuis longtemps.
Ah, vous imaginez pas à quel point je suis pressé de les avoir devant moi, en fait. Il ne me tarde qu'une seule chose, c'est de pouvoir les regarder droit dans les yeux, en fait.
Les viols et les violences subies à Betaram, il les a déjà racontés à la radio et à la télé, mais devant des responsables de la congrégation, jamais.
J'ai un quart d'heure pour expliquer un petit peu ce que j'ai pu vivre et ressentir là-bas. Pour ma part, j'ai préparé 5 pages, hein. Ça m'a pris une journée entière. Je vais lire devant tout le monde et bien évidemment, je vais les nommer à plusieurs reprises. Donc maintenant, à eux après de faire le travail et peut-être de venir vers nous.
Eux, ce sont le père Laurent Vachaud et le vicaire régional Jean-Marie Ruspil. Représentant les prêtres de Bétharram, ils n'ont pas prévu de répondre aux témoignages, mais leur simple présence dans le public pour écouter les victimes est un signal positif pour Jean-Pierre Massia, président de l'Institut pour la justice et la démocratie qui organise cette journée.
On va amorcer un dialogue, non pas dans le sens d'absoudre les prêtres de leurs responsabilités, mais de les amener à participer au mieux qu'ils puissent à la reconnaissance de leurs responsabilités et accompagner la reconstruction des victimes.
Représentants de Bétharram et victimes pourraient même se rencontrer à huis clos à la fin de la journée.
Et ce matin, toujours à Bayonne, la comédienne Charlotte Arnoux a pris la parole. Charlotte Arnoux avait déposé plainte contre Gérard Depardieu, qu'elle accuse de 2 viols en 2018. L'acteur est mis en examen dans cette affaire et un procès est même requis à son encontre. On va y revenir en détail dans le point météo à la fin de ce journal. Les chutes de neige apparues la nuit dernière ont rendu ce matin la circulation bien difficile dans les monts du Lyonnais et du Forêt. 3 départements du nord du Massif central sont en vigilance orange, neige, verglas. La neige est tombée également à Saint-Étienne, qui était ce matin toute recouverte d'un manteau blanc.
France Inter, le journal de 13h. Éric Delvaux.
Voilà plusieurs mois que la population serbe, les étudiants notamment, manifestent pacifiquement contre la corruption. Et bien cette fois, le vaste rassemblement prévu aujourd'hui s'annonce plus explosif que les précédents. La Serbie se prépare à l'une des plus grandes manifestations des dernières décennies dans les rues de Belgrade, où le pouvoir serbe a de son côté déjà mobilisé ses soutiens. Un reportage ce matin à Belgrade, signé Louis Seyé.
La manifestation n'est prévue qu'à 16h, mais ils sont déjà plusieurs centaines à faire du bruit devant le Parlement, comme Tara, une architecte de 31 ans.
On veut du changement parce qu'on en a assez. Il est temps que les choses changent. Il est temps que le peuple prenne sa liberté en main et ne permette à personne d'autre de lui voler cette liberté.
Un sifflet autour du cou, Aleksandar est venu en famille apporter son soutien aux étudiants qui manifestent depuis 4 mois contre la corruption.
On veut que les institutions fassent leur travail et que ces voleurs au pouvoir soient poursuivis, condamnés et aillent en prison pour les crimes qu'ils ont commis. Et qu'on puisse avoir des dirigeants qui travaillent pour nous et pas seulement pour leur propre intérêt.
Ces derniers jours, le président Vučić a fait monter la tension en évoquant des actes de violence et en mobilisant une ancienne unité de paramilitaires des guerres des années 90. Pas de quoi faire peur à Vladimir, tout juste arrivé du sud de la Serbie.
Je n'ai pas peur du tout. Ils essaient simplement de manipuler l'opinion. Mais nous sommes ici unis pour obtenir justice. Ce que fait le pouvoir n'a pas d'importance.
Ce 15 mars s'annonce déjà historique. Les organisations étudiantes ont annoncé le plus important rassemblement de l'histoire de la Serbie. À Belgrade, Louis Seyé, France Inter.
En Syrie, c'était un 15 mars, comme aujourd'hui, il y a 14 ans, les Syriens entamaient donc une révolution historique pour faire tomber le régime de Bachar el-Assad, rapidement transformé en conflit armé par le dictateur. Plus de 500 000 personnes ont perdu la vie en Syrie jusqu'à la chute de Bachar el-Assad en décembre dernier. Et bien aujourd'hui, pour célébrer ces 14 ans de révolution, du début de la révolution, les Syriens vont pouvoir manifester librement, mais dans un pays ravagé, où tout est encore à reconstruire. Arthur Saradin est notre envoyé spécial à Damas.
Elle avait commencé dans la province de Dara, au sud de la Syrie. Alors que les printemps arabes secouent la région, de jeunes Syriens peignent un graffiti qui va faire basculer le pays entier. « Ton tour viendra », c'est ce que ses enfants ont écrit à l'encontre de Bachar el-Assad, avant d'être arrêtés par les services de renseignement syriens. Emprisonnés, torturés, des manifestations vont éclater dans tout le pays. D'abord pacifiques, elles seront réprimées dans le sang par le régime d'Assad. Les armes commencent à circuler, des groupes rebelles se forment pour confronter la dictature. S'ensuivra l'une des guerres les plus meurtrières de la région. Mais pour la première fois depuis 2011, les Syriens vont pouvoir manifester sans répression. Pour les nouvelles autorités, tout est à reconstruire pour concrétiser les espoirs portés par cette révolution. Cette semaine, une déclaration constitutionnelle a vu le jour. Elle y consacre la séparation des pouvoirs, la liberté, l'égalité entre les citoyens ou encore l'autorisation de tous les partis politiques. Une transformation encore impensable sous l'ancien régime.
Arthur Saradin, en duplex de Damas. Washington vient d'expulser l'ambassadeur d'Afrique du Sud. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio le qualifie désormais de politicien raciste qui déteste non seulement l'Amérique, mais aussi le président Donald Trump. Il n'est donc plus le bienvenu, dit Washington. Le diplomate sud-africain Ebrahim Rasool est aussi membre de l'ANC et les relations entre les États-Unis et l'Afrique du Sud se sont dégradées depuis le retour au pouvoir de Donald Trump, qui a coupé l'aide financière à Pretoria. Le rugby, c'est l'événement sportif du week-end avec un nouveau trophée en vue pour le 15 de France, France-Écosse ce soir au Stade de France pour remporter donc pourquoi pas le tournoi des Six Nations. Ce serait d'ailleurs un premier titre depuis le Grand Chelem des Bleus en 2022. Ce serait aussi le deuxième trophée des Bleus sous l'ère Galtier. France-Écosse donc un match piège ce soir. Eh bien écoutez ce qu'en dit l'ouvreur Romain Ntamack qui a fait là et qui fait toujours la charnière et il l'a fait d'habitude avec Antoine Dupont, mais un Dupont absent ce soir sur la pelouse après une sérieuse blessure au genou le week-end dernier en Irlande.
C'est vrai qu'il avait envie de rester avec le groupe. Après, c'est vrai qu'il est, assez meurtri, il est assez battu. Et on aura un supplément d'âme, ça sera évidemment un levier de motivation pour jouer et pour gagner un titre pour nous, mais aussi et surtout pour lui. Donc si, ça peut être un match piège, mais après, on sait très bien à quoi s'attendre face à l'équipe d'Écosse. C'est une équipe qu'on craint évidemment, qui a de très bons joueurs de classe internationale. Et on prend vraiment cette équipe-là au sérieux. Donc encore une fois, on sait gérer ce genre d'événement et on va tout faire en tout cas pour pas tomber dans le piège. Mais depuis le début de la semaine, je me sens quand même très concentré, très déterminé à faire un grand match.
France-Écosse, donc à 21h ce soir au Stade de France. Et bonjour Guy Noves.
Oui, bonjour.
Ancien sélectionneur de l'équipe de France, ex-entraîneur puis manager du Stade Toulousain. Vous êtes l'entraîneur français le plus titré. Alors, Romain Ntamack l'évoquait à l'instant, cette absence d'Antoine Dupont remplacé à la charnière par Maxime Lecu. Comment les Bleus vont-ils devoir adapter leur jeu ce soir sans Antoine Dupont?
Ben écoutez, je crois qu'ils ont démontré que sans Antoine Dupont, qui est sorti assez rapidement finalement lors du dernier match, ils ont pu, avec Maxime Lucu, s'adapter très rapidement et monter la barre très très haute, puisqu'ils ont mis, je crois, 40 ou 45 points aux Irlandais. Oui. Et Antoine Dupont était absent. Donc non, je pense que c'est le système de jeu aujourd'hui de l'équipe de France, est servi par des joueurs merveilleux et de talent, et pas que Antoine Dupont, et aussi un système de jeu qui correspond et qui est vraiment spectaculaire. Mmh. Et moi, je suis ravi, puisque je vois du spectacle tout le temps.
Et 42 points face à l'Irlande, 73 face à l'Italie, mais une équipe de France aussi dont on n'oublie pas qu'elle est parfois passée à côté des grands rendez-vous, comme la Coupe du Monde. Est-ce que ça peut encore être son point faible ce soir au moment de remporter le tournoi Destination?
Écoutez, ça fait couler beaucoup d'encre, cette histoire de match perdu contre la Coupe du Monde. Après être passé à côté en Coupe du Monde il y a déjà maintenant quelques temps. Mmh. Depuis, on a l'impression quand même que cette équipe de France est maîtrise et a passé la vitesse supérieure. Quand on voit un petit peu la qualité individuelle de certains joueurs, des remplaçants, de ceux qui ne sont pas remplaçants, quand on voit par exemple les jeunes qui ont gagné hier 45-40, quand on voit le Stade Toulousain dominer le rugby national et européen, et comme voit l'équipe de France, on a quand même le sentiment que l'équipe de France est passée à autre chose.
Guy Noves, on va parler de l'Écosse. Gros morceau, même si la défense écossaise peut parfois se laisser surprendre. Qu'est-ce que les Bleus doivent particulièrement craindre ce soir de cette équipe écossaise?
Écoutez, on sait très bien que les Écossais jouent beaucoup. N'ont peut-être pas de restrictions dans leur jeu et sont servis par des trois quarts de grande qualité, mais on a vu aussi une équipe de France être hyper vigilante défensivement. On l'a vu vraiment, par exemple, être dominé sur les 10-15 premières minutes en luttant très proche de ses lignes. Ce que peut-être les Écossais seront capables de faire, mais après on voit que sur la durée du match, l'équipe de France est en train va leur passer dessus. Donc moi c'est mon sentiment. Maintenant, encore une fois, il y a des scores tellement importants. Moi, je me rappelle d'un grand chelem en 1976.
On va conclure, Guy Noves. On va conclure. Vite.
Ben écoutez, bon, j'espère que l'équipe de France sera au rendez-vous, c'est certain.
Vous êtes confiant.
Mais confiant, oui.
Merci beaucoup. Merci de votre confiance, Guy Novès. Ça va peut-être leur porter bonheur. Et merci de cette analyse d'avant-match. France-Écosse au Stade de France. Coup de filet qui va résonner à 21h. Le réalisateur israélien Amos Gitai revient au théâtre. Et comme souvent à travers ses œuvres, il dénonce la guerre. Son nouveau spectacle s'intitule Golem. Il est créé au Théâtre National de la Colline à Paris. Golem, donc, cette figure d'argile légendaire de la mythologie juive. Représentation à laquelle Fanny Imbert a assisté.
Au sol, les vêtements de victimes inconnues, et au centre, une figure d'argile. C'est le golem, cet être artificiel présent dans la mythologie juive, façonné pour défendre son créateur, raconté en 12 tableaux par Michel Esco et Irène Jacob.
Je crois que le golem, c'est vraiment un être concret qu'on invente pour venir effectivement nous défendre, mais finalement, la défense, elle est aussi à l'intérieur. C'est pas seulement une défense physique, finalement.
Une distribution qui multiplie les confessions, les langues aussi, du français au yiddish, en passant par l'allemand ou l'hébreu, un cœur de femme sublime. Sublime le tout, mêlant chants populaires et airs d'opéra. Le mythe du golem, Amos Gitai l'explore depuis longtemps, il lui a déjà consacré 3 films.
La culture, l'art, elle ne peut pas être satisfaite strictement par faire des trucs plutôt amusants, mais qui l'engagent avec le réel, avec des vagues de racisme, d'antisémitisme, de la haine. Il faut qu'il y ait cette sorte d'engagement civique comme un acte de presque résistance, on peut dire.
Davantage cinéaste comme de théâtre, Amos Gitai offre cependant un moment de poésie au cœur d'une quête de réconciliation.
Le cœur de femme composé de Dima Bawab, Zoé Fourré, Sophie Lefeu. Pour ce spectacle donc d'Amos Gitai, Golem au Théâtre de la Colline, c'est jusqu'au 3 avril. On va rester au théâtre avec les bonnes ondes de Sandrine Houdin et nous partons à Laval. On va rencontrer une troupe de théâtre exceptionnelle baptisée Reflet de scène. Les comédiens sont tous porteurs de handicap, mais jamais ils n'en font état. Une troupe comme les autres donc, le projet a été lancé il y a un an par la jeune chambre économique de Mayenne, une troupe qui a séduit Artus, le réalisateur d'Un petit truc en plus, est même devenu leur parrain. Et en coulisses, à Laval donc, Sandrine a rencontré Bruno, l'un des comédiens.
On le repère facilement avec sa canne, ses tatouages et sa queue de cheval. Il ne rate aucune répétition.
Oh, j'ai dû en rater une parce que j'avais la crève, mais sinon non, jamais.
Pourquoi ?
Ah, parce que j'adore ça. Parce que toutes les semaines, il faut aller chez les médecins, il faut aller chez les spécialistes. C'est hyper fatigant. Et quand on a le théâtre, c'est la récréation. On se marre tellement. On ne parle jamais de handicap, jamais. On est là pour jouer.
Et Dieu sait si au départ, c'était compliqué.
Vincent, là-bas, celui qui a le gilet gris tout au fond, là-bas, il était collé au rideau, quoi, au mur. Maintenant, c'est au secours, quoi. C'est-à-dire que s'il faut sortir une blague, il va la sortir. Il n'y a rien qui l'arrête.
Métamorphosé.
Ah oui, oui, oui. Mais tous, il y a plein de gens qui se sont ouverts. Il y avait des gens qui ne bougeaient pas. Parce que on se demande de quoi rient les gens. Est-ce qu'ils rient parce que c'est drôle, le sketch, ou est-ce qu'on rit de la personne qui a du mal à, des fois, dire son texte intelligiblement, alors, de qui rit-on ?
C'est ça qui fait peur.
Ouais. Moi, j'ai écrit une chanson, justement, sur le handicap, qui s'appelle « Nous, les autres ». En fait, j'explique dans la chanson que c'est pas la peine de nous regarder comme des pestiférés. On n'est pas différents, on a simplement un handicap. Moi, j'ai du mal à me déplacer, mais avant, j'étais valide, comme tout le monde.
Nous voulons juste vous écrire cette petite chanson pour que nous puissions vivre un jour à l'unisson. Pourquoi en nous voyant vos visages sont figés ? Pourquoi votre dédain et vos regards baissés ?
Artus, il nous a surnommé la secte. Parce qu'il nous dit, il faut être taré, quoi. Parce que déjà, faire un film avec des gens en situation de handicap, c'est compliqué. Mais alors, une pièce de théâtre, pour oser faire ça, au cinéma, on peut faire couper. Au théâtre, non, on n'a pas le choix.
Au moment des applaudissements, vous avez ressenti quoi ?
Déjà, la salle était pleine. C'était complet de chez complet. Et les gens nous ont fait une standing ovation, une bonne dizaine de minutes. On a reçu une dose, une violence d'amour. Et on disait, waouh, pour nous, ça ? Mais c'est dingue ! Alors que d'habitude, les gens nous regardent mal dans la rue, ont peur de nous. C'était tellement, tellement fort que le lendemain, on est à moitié déprimé parce qu'on dit, ça y est, c'est fini, quoi. Personne s'y attendait à ça.
Vous avez plus l'habitude qu'on vous regarde mal qu'on vous applaudisse.
Ouais. pour une fois qu'on nous regarde normalement, ça fait bizarre.
Gardons espoir, nous les autres.
La troupe Reflet de Seine à Laval, dans les bonnes ondes de Sandrine Houdin. Second épisode demain. Le temps.
La météo avec Utopia. Camping, tente et cabane en pleine nature pour des séjours inoubliables, par tous les temps. À réserver sur utopia.com.
Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Vigilance toujours de mise pour la neige sur le centre-est.
Oui, et c'est dès 600 mètres que localement du massif central au Limousin, on attend jusqu'à 10 cm de neige entre aujourd'hui et demain. En allant vers les frontières de l'Est, là aussi de la neige qui pourrait blanchir les sols. Pour le reste du pays, c'est plus calme. Avec une alternance de nuages et d'éclaircies accompagnées de quelques gouttes le long des côtes. Dans les terres, ce sera un petit peu plus nuageux que ce matin, notamment au nord de la Seine. En revanche, fini le ciel couvert près de la Méditerranée. Les nuages sont chassés par une forte tramontane et le soleil est de retour. La Corse, en revanche, conserve son ciel couvert avec de fortes averses, parfois orageuses, et de la neige, là aussi, sur le relief, mais au-dessus de 1600 mètres.
Et toujours ce froid.
Oui, surtout sur la moitié nord et le centre-est. Là, la moyenne, cet après-midi, va de 4 à 9 degrés. On est 4 à 6 degrés sous les normales de saison. C'est plus doux sur la moitié sud. Mais là aussi, on reste sous les normales avec une moyenne de 10 à 16 degrés. Patience, les températures repartiront à la hausse dès lundi. Mardi, pour vous donner une idée, on aura l'après-midi une moyenne de 15 à 16 degrés sur l'ensemble du pays, mais les matinées vont rester bien fraîches.
Céline Dacosta.